Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Priorité à l'Irak, c'est en substance ce qu'a déclaré en début de semaine le président américain en annonçant une nouvelle phase de l'opération en cours au Proche-Orient, nouvelle phase qui prévoit le doublement des effectifs américains déployés en Irak qui dépasseront prochainement les 3000 hommes. Géopolitique était il y a quelques jours à Lyon où se tenait à l'université Lyon 2 un colloque organisé par le groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, conjointement avec Sciences Po Lyon et Grenoble sur le thème « Le Moyen-Orient à l'heure du Golfe ». Nous avons profité de la présence de Henri Barquet, professeur à l'université Lehigh de Bethléem en Pennsylvanie aux États-Unis, pour évoquer la question des États-Unis et du Moyen-Orient. Henri Barquet, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également invité Sophie Pommier, directrice du cabinet Méroé à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et Bahram Mikaïl, chercheur à la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur, qui est un think tank européen basé à Madrid et à Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Henri Barquet, le président Obama, sans doute les élections de mi-mandat y sont pour quelque chose, a été très critiqué ces dernières semaines pour sa politique étrangère, particulièrement au Proche et Moyen-Orient. On lui reproche d'avoir mis à mal la crédibilité des États-Unis en ne mettant pas la menace d'intervenir en Syrie à exécution durant l'été 2013, lorsque le président syrien a franchi la ligne rouge avec l'utilisation des armes chimiques. C'est un débat qui résonne aux États-Unis.
C'est-à-dire que c'est un débat qui résonne, mais qui n'est pas, d'après moi, un débat de premier plan. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres débats en ce moment en Amérique, surtout sur la question économique, qui est beaucoup plus importante, au fond. Mais quand il s'agit de la politique étrangère, il n'y a pas de doute que le Moyen-Orient, aujourd'hui, est l'endroit le plus important. Mais il faut dire aussi que l'Amérique est vraiment très divisée sur ça. La grande majorité des Américains ne veulent pas d'intervention au Moyen-Orient. Ils en ont marre de la guerre, ils ne veulent pas d'un second conflit. Alors quand vous voyez les républicains qui sont en train de dire que Obama a été très faible sur la question des armes chimiques ou la question de la Syrie, je ne crois pas que ceci résonne terriblement parmi la population américaine. Les grands journaux américains aujourd'hui ne sont pas contre Obama sur ce point-là. Il n'y a pas de doute que quand il s'agit d'une politique américaine, il n'y a pas vraiment une politique américaine sur le Moyen-Orient. Au fond, M. Obama a essayé de s'enfuir du Moyen-Orient autant qu'il pouvait. Il veut pas, surtout sur l'Irak, il ne voulait pas entendre parler de l'Irak. Pour lui, l'Irak, c'était vraiment la guerre de George Bush qui devrait être terminé, qu'il faut retirer les soldats, il faut effectivement, ceci est arrivé. Mais maintenant, il se rend compte que l'Irak est important et que tout ce que nous voyons aujourd'hui, et je suis sûr que nous allons en parler encore plus de ça, est vraiment fixé sur l'Irak. La Syrie ne compte pas, mais c'est l'Irak qui compte. Et le fait que Daesh, l'État islamique, est en train de menacer l'État d'Irak est ce qui a ramené, si vous voulez, Obama a pensé de nouveau du problème de l'Irak. Les républicains, au fond, ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'eux voulaient, surtout avec la question des armes chimiques, voulaient que Obama bombarde la Syrie. Mais ça, ce n'est pas une solution. La vraie critique qu'on doit faire sur la politique d'Obama, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui en Irak était prévisible. C'est-à-dire que Daesh se renforçait, il y a le changement qui a commencé avec la guerre civile en Syrie était en train d'influencer toutes sortes de choses en Irak. Et Obama et son administration, d'abord qu'ils n'ont pas fait attention et puis ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et ce n'est pas la critique républicaine ici qui est juste, c'est-à-dire qu'en bombardant la Syrie, on n'aurait pas effectivement même quand on dégomme Assad, n'aurait pas résolu le problème qui existe aujourd'hui. Peut-être que ça l'aurait même empiré, nous ne savons pas. La vraie critique, c'est qu'il aurait dû penser et se préparer au changement qui venait en Irak.
Donc c'est un problème d'anticipation, c'est cela qu'il faut entendre de ce que vous dites, Henri Barquet.
Oui, d'anticipation, un problème conceptuel, si vous voulez, de comprendre comment cette frontière entre la Syrie et l'Irak, qui avait disparu il y a 2 ans, 3 ans de ça. La Maison-Blanche vient de se rendre compte. Au fond, le numéro 2 du Conseil de sécurité nationale, M. Blinken, a fait un discours l'autre jour en disant que quand Daesh a attaqué Mossoul, ils se sont rendus compte que la frontière entre la Syrie et l'Irak n'existait plus. Bon, écoutez, il y a 3 ans qu'elle n'existe plus. Mais c'est pas maintenant que vous auriez dû vous rendre compte de ceci. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. C'est ça la vraie critique qu'on devait faire de la politique d'Obama.
Baramiga, il y a un commentaire sur ce que vient de dire Henri Barquet?
Non, je rejoins tout à fait Henri Barquet sur le fait qu'effectivement, on a quelque part l'approche de l'administration Obama vis-à-vis des dossiers irakiens et syriens n'a pas été au rendez-vous par rapport à ce que beaucoup d'observateurs ou même de chercheurs, à commencer par les États-Unis, préconisaient. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression, pendant quelques années maintenant, de ce que tout le monde voulait mettre le paquet sur la Syrie, alors que dans les faits, effectivement, l'Irak, on le voyait clairement auparavant, était un pôle bien plus menaçant que la Syrie comme telle. Maintenant, il faut aussi voir aussi que, bien sûr, les Américains aiment la conceptualisation et que, notamment avec l'administration Obama, on a eu cette fameuse expression du « leading from behind » aussi qui est intervenue et qui était une manière de dire que, finalement, peut-être que le leadership est présent au niveau des États-Unis, mais que, dans le même temps, il y a une rupture par rapport aux habitudes, par rapport à la tradition américaine que l'on a connue, surtout avec l'administration Bush, qui était plus une tradition, on va dire, de venir en force et d'y aller et d'attaquer quand il le faut. Maintenant, quand on voit les perspectives aujourd'hui, moi je crois que les choses, effectivement, ne sont pas entièrement tranchées jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que d'un côté, incontestablement, quand Barack Obama est arrivé au pouvoir à la présidence américaine, non seulement il y avait le fardeau de la désastreuse approche du Moyen-Orient qu'il se devait de contrebalancer à sa manière, et je crois que c'est pour ça qu'on a eu moins d'interventionnisme, en fait, de la part de l'administration Obama. Mais je crois que l'autre aspect, c'est aussi que Barack Obama est intervenu dans un contexte de totale crise économique et que là aussi, cela a des impératifs qui sont notamment indiqués par les sondages d'opinion aux États-Unis qui, jusqu'aujourd'hui, malgré certaines variations, montrent que finalement, si on devait aller vers un interventionnisme franc et massif, on est sûr que Barack Obama n'aurait pas un soutien majoritaire de la part de la population américaine. Là où les choses sont un peu plus nuancées, c'est quand on voit que d'un côté, les Américains veulent qu'il y ait, je dirais, des représailles ou en tout cas une réponse à la hauteur de la menace représentée par l'État islamique, mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'ils veulent rouvrir le bourbier irakien qu'on a eu depuis 2003. Et alors, dans tout cela, moi je crois que, notamment ce que Henri Barquet rappelait par rapport à la presse américaine et le fait qu'elle soit plutôt compréhensive vis-à-vis de l'administration Obama, je crois que c'est effectivement quelque chose de très présent ou de très révélateur, en fait, du fait qu'il y a encore une conscience de ce que l'interventionnisme américain n'a pas forcément bonne presse. Et je me souviens, en l'occurrence, il y a 6 ou 8 mois maintenant, d'un article d'opinion qui était paru dans le New York Times et qui était titré « Pourquoi est-ce que Barack Obama est un bon président ?» en disant que le fait qu'il n'aille pas en Syrie de manière militaire est la représentation de sa sagesse, finalement. Mais aujourd'hui, incontestablement, je crois que ce facteur lié à l'État islamique, lié à Daesh, est un facteur qui ne bouleverse pas la donne, mais la change un tout petit peu. Et pour laisser une question ouverte, là, je dirais que le problème que l'on a maintenant avec l'État islamique, c'est que d'un côté, je crois personnellement que c'est plutôt le militaire qui fait la différence par rapport à l'État islamique, parce qu'on a une organisation qui prétend à former un État et qui a des méthodes radicales et des politiques qui vont plus loin que ce que l'on a connu avec Al-Qaïda précédemment. Mais d'un autre côté, ça ne devrait pas nous empêcher de laisser d'autres portes de composition ouvertes. Et je crois que c'est là que la donne est compliquée pour Barack Obama. Et en l'occurrence, et je terminerai avec cela, sur ce point, en l'occurrence, quand on a eu, dans les semaines qui ont suivi les premières opérations anti-État islamique, des déclarations de la part de hauts officiels américains qui disaient « on est parti pour une période d'entre 10 et 30 ans », je crois que ça c'est la continuation de la fameuse « war on terror » qu'on avait eue avec l'administration Bush. Et le problème que l'on a, c'est que finalement, je crois que les États-Unis ont encore des politiques qui, en partie, nourrissent une radicalisation et qui permettent d'élargir le front bénéficiant à l'État islamique. Mais de l'autre côté, a-t-on défini les solutions en termes de développement, en termes de définition et de présentation d'horizons pouvant être atteints par les opinions publiques arabes qui leur permettraient de dévier de ce chemin de la radicalité? Je crois que là, malheureusement, non, et beaucoup reste à faire, justement.
Alors, Henri Barquet, je rebondis sur ce que vient de dire Baramikaï. On a vu donc les Américains intervenir. Alors, la question, vous dites que la population américaine était contre. On est bien d'accord, c'est la décapitation de 2 Américains qui a fait que les États-Unis ont décidé d'y aller. Partir physiquement bombarder l'État islamique, on est d'accord?
Je ne suis pas d'accord du tout. C'est-à-dire que, oui, 2 Américains ont été décapités, mais ce n'était pas la raison pour laquelle l'Amérique a décidé de bombarder l'État islamique. Ils ont commencé à bombarder parce que, au fond, l'Irak allait chuter. Sinon, l'Irak est beaucoup trop important pour l'Amérique. Pas seulement parce que nous avons fait la guerre en Irak deux fois, pas une fois. Et c'est un pays beaucoup plus important du point de vue le pétrole, du point de vue les différences sectaires et nationales qui existent en Irak sont beaucoup plus prononcées qu'en Syrie, ont beaucoup plus de conséquences pour le reste de la région que la Syrie. Écoutez, la guerre civile en Syrie, rester en Syrie, ça ne débordait pas. L'Amérique n'aurait rien fait. C'est l'Irak qui est important ici.
Alors, en Europe, on a beaucoup situé, là, on s'est peut-être trompé, Henri Barquet, sur ce côté aussi électoral hein, de la question des décapitations. Il fallait une réaction de la Maison-Blanche dans cette campagne électorale pour les midterm elections aux États-Unis. En tout cas, cette conscience aussi que les États-Unis et que cette guerre déclarée est une guerre de long terme, cela est partagé, Henri Barquet ?
Au fond, ce n'est pas une guerre de long terme. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui se passe à Kobani. La grande différence entre Kobani et les autres endroits en Irak ou en Syrie, c'est qu'à Kobani, les Kurdes ont décidé et ont réussi à se défendre. Ils se sont défendus bien. C'est-à-dire ils auraient perdu contre le Daesh, contre l'État islamique. Mais c'est là où l'aviation américaine qui a fait une différence. Mais ce que je crois que les Américains veulent faire avec Kobani, c'est montrer, faire un exemple, si vous voulez. L'exemple est le suivant, et c'est surtout sur l'Irak. Si vous vous défendez contre l'État islamique, nous allons vous aider. On peut vaincre l'État islamique, mais il faut que vous vous défendiez. Écoutez, l'armée irakienne s'est effondrée dans l'espace de quelques heures, si vous voulez. Les Kurdes, c'était un peu plus différent, c'est beaucoup plus compliqué, mais eux aussi n'ont pas montré grand courage devant l'État islamique. Mais les Kurdes de Syrie l'ont fait. Et malgré que la politique américaine jusqu'à maintenant a toujours été, surtout sur la question kurde, de faire ce que la Turquie veut que nous fassions, cette fois-ci, Obama a décidé de rompre avec les Turcs. Et les Turcs sont furieux en ce moment. Mais il l'a fait parce qu'ils se sont rendus compte que à Kobani, vraiment, la résistance kurde était assez importante que si on l'aidait, on aurait pu arrêter l'État islamique. Et si le reste de l'Irak en prend une leçon de ça, c'est qu'ils doivent se réorganiser, ils doivent mener le combat contre l'État islamique et les Américains vont les aider. Mais alors, ce n'est pas une guerre américaine, c'est plutôt une guerre des Irakiens qui sera aidée par les Américains. C'est différent, c'est pas Bush.
Sophie Pommier.
Effectivement, sur Kobané, les Américains arrivent en soutien des Kurdes. Les Kurdes ne se battront pas contre l'État islamique au-delà du Kurdistan. Par exemple, sur Mossoul, quelle va être la stratégie ? Parce que les rebelles aujourd'hui accusent les Américains de ne se confronter qu'à l'État islamique, ce qui renforce Bachar el-Assad au sens où du coup lui peut se recentrer dans la lutte contre les rebelles. Et sorti du cadre d'une ville comme Kobané et du contexte kurde, que peut faire la coalition internationale ?
Henri Barquet.
Bon, écoutez, aujourd'hui le plus grand danger du point de vue de l'Amérique, c'est l'État islamique. Alors, le premier, si vous voulez, objectif, c'est d'arrêter cette grande vague de l'État islamique. Parce que si on ne fait pas ceci, tous les autres opposants de la région vont joindre l'État islamique. Parce que tant que l'État islamique réussit, ils vont réussir aussi à trouver d'autres adeptes. Vous pouvez penser par exemple à des organisations comme Al-Nusra, etc., qui vont éventuellement se joindre à l'État islamique. Et l'État islamique sera de plus en plus puissant. Alors il faut arrêter cet élan. Et ça, c'est la politique américaine en ce moment. Mais la politique américaine n'a jamais été d'essayer de se débarrasser d'Assad d'une façon militaire. C'est quelque chose que les Syriens devaient le faire, ou les pays de la région. Au fond, les pays de la région sont les pays qui sont affectés par ce qui se passe en Syrie. C'est pas l'Amérique. Oui, nous avons eu quelques Américains qui ont été tués, mais c'est pas notre problème vraiment. C'est le problème de la Turquie, de la Jordanie, de l'Irak, du Liban, même l'Arabie Saoudite, si vous voulez. Mais ce n'est pas notre problème. Et tous ces pays-là, le Qatar inclus, les Iraniens naturellement, ont créé un problème beaucoup plus grand qu'il l'était. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque fois que quand les choses ne vont pas bien, ils se sont habitués aussi, peut-être parce qu'à cause de Bush et les deux Bush, c'est que les Américains viendront et vont d'une façon ou d'une autre, parfois ils vont réussir, parfois ils ne réussiront pas, mais ils vont s'arranger pour changer l'effet sur l'effet. Alors, ce que Obama est en train de dire, c'est que ce n'est pas « leading from behind » que vous avez... En Libye, vous avez raison, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est plutôt « nous allons vous aider si vous prenez les bonnes décisions, si vous décidez de joindre la bataille contre d'une façon cohérente. » En ce moment, les Turcs et le Qatar sont d'un côté, l'Arabie Saoudite est d'un autre, la Jordanie est avec, je ne sais pas avec qui, l'Iran est avec les Alaouites. Alors, ce que nous voyons, c'est un méli-melo où les gens disent, bien, c'est à l'Amérique d'arranger tout ça. Non, mais ce n'est pas à l'Amérique d'arranger. Nous sommes trop loin. Et nous avons déjà payé assez pour nos fautes à nous. C'est pas, l'Amérique ne veut pas refaire cette...
Cela étant dit, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il y a eu quand même beaucoup de débats par rapport aux possibles recompositions des alliances dans la région et à la place des États-Unis dans tout cela. Et je pense notamment à beaucoup de pays du Golfe en disant cela, à commencer par l'Arabie Saoudite, qui pour sa part... C'est pas récent, ça remontait déjà à 2004, mais depuis le printemps arabe en l'occurrence, l'Arabie Saoudite a eu quand même quelques craintes par rapport au fait que les États-Unis, ne s'avéraient plus aussi fermes, je dirais, et aussi interventionnistes qu'ils n'avaient la réputation de l'être précédemment. Et dans la lecture de beaucoup de pays du Golfe, cela revenait aussi pour les États-Unis à laisser de la marge à d'autres acteurs, tant régionaux, comme l'Iran, que extérieur, comme les Russes ou les Chinois, par exemple. Ça, c'était du moins le réflexe initial. Et on a beaucoup d'exemples où les Saoudiens, particulièrement, ont donné l'impression de vouloir un peu, on pourrait dire, provoquer les États-Unis, par exemple, sur les termes de composition en matière d'armement, de négociation, de deal militaire avec la Russie, en l'occurrence. On avait l'impression que c'était une manière de dire aux États-Unis, dites-nous où est-ce que vous vous positionnez par rapport à tout cela, parce que sinon, nous, on tient à des alliances extérieures qui devraient conforter nos intérêts. Donc je crois que là, il y a un point important qui a pu aussi, à défaut d'inquiéter, à tout le moins, susciter des interrogations du côté de l'administration Obama, malgré les nuances qui sont intervenues entre le premier terme et le second terme de Barack Obama en termes de politique étrangère et de matière décisionnelle sur le plan de la politique étrangère. Autre aspect important, je crois qu'il faut souligner, puisqu'on a parlé des Kurdes, moi je crois qu'effectivement là il y a quelque chose de fondamental, parce qu'on pourrait avoir une des formes des recompositions de la région à l'avenir qui se joue à travers l'exemple des Kurdes. D'un côté, on a les schémas stato-nationaux, donc les États-nations et la manière par laquelle les États-Unis sont conscients de ce que les gouvernements en place, dans des États-nations en place, sont la garantie de la stabilité. Mais d'un autre côté, si on abonde plus dans le sens d'un renforcement ou d'un armement des Kurdes dans la région, ou de certains Kurdes dans la région, incontestablement, on est en train de créer un nouveau pôle territorial qui, pour sa part, pourrait concurrencer, en l'occurrence, le gouvernement irakien, par exemple, quand on voit les Kurdes du nord de l'Irak. Jusqu'à un certain point, on pourrait dire la même chose aussi pour les Kurdes en Syrie, même si, à mon avis, les ponts restent ouverts entre la formation majoritaire, le PYD en Syrie et le gouvernement syrien. Mais cela étant dit, sur cela, moi je crois qu'effectivement une nouvelle phase s'ouvre, et que même si on va rester dans les temps qui viennent, dans des schémas qui permettront plus ou moins à ces États nationaux et à ces États-nations et au gouvernement de se maintenir, moi je crois que l'une des interrogations qui se pose aussi, c'est comment est-ce que les États-Unis vont pouvoir composer avec ces gouvernements tout en gérant la donne liée à l'émergence d'acteurs non étatiques, tels que des milices, comme on en a beaucoup en Irak, tels que des groupes terroristes qui font la différence, et tout en gardant leur influence dans la région. Et je crois que c'est là qu'effectivement, d'ici à 2 ans, on aura un grand questionnement par rapport à ce bilan des 2 ans de Barack Obama et la manière par laquelle ça pourrait ou bien maintenir ou bien écorner encore plus ce leadership américain dans la région.
Et on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités Henri Barquet, Sophie Pommier et Bahram Ikaïl dans quelques instants. À tout de suite.
L'épopée des musiques noires.
Maître géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis l'université Lyon 2 qui accueillait il y a quelques jours un colloque sur le thème le Moyen-Orient à l'heure du Golfe. Nous retrouvons nos invités sur les États-Unis et le Moyen-Orient. Henri Barquet, professeur à l'université Lehigh de Bethléem en Pennsylvanie aux États-Unis. Sophie Pommier, directrice du cabinet Méroé à Paris. Et Bara Mikhaïl, chercheur à la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur. Henri Barquet, qu'est-ce que l'on peut dire finalement de la stratégie aujourd'hui des États-Unis au Moyen-Orient ?
Au fond, d'après moi, ils n'ont jamais eu une stratégie. Ou s'il y avait une stratégie, c'est de s'enfuir du Moyen-Orient. Si vous n'avez que voir ce qui s'est passé au commencement de l'administration de M. Obama, quand Hillary Clinton est devenue secrétaire d'État, ils ont les deux grands dossiers du temps. La question d'Israël-Arabe et l'Afghanistan et le Pakistan ont été données, d'autres personnes ont été chargées de s'en occuper. George Mitchell, d'un côté, et M. Holbrooke, de l'autre côté. Et ceux-ci, ce sont des grands dossiers qui ont besoin de l'attention du secrétaire d'État, et sinon même le président des États-Unis. Or, ils étaient tellement effrayés, si vous voulez, des complications surtout Madame Clinton, qui voulait naturellement veut devenir présidente maintenant, ne voulait pas s'occuper d'un dossier aussi compliqué comme celui du Israël-Arabe. Alors il a confié à Monsieur George Mitchell, qui n'a rien fait naturellement. Et la seule chose où les Israéliens et les Palestiniens sont d'accord, c'est que Monsieur Mitchell n'était pas très bon comme interlocuteur. Mais autrement dit, Obama et Hillary Clinton, du commencement, ont essayé d'éviter le Moyen-Orient. En ce qui concerne l'Irak, alors la grande faute, je dois dire, qui a été commise par Obama, c'est que ne pas se rendre compte que la politique qu'ils avaient avec M. Maliki comme premier ministre était une politique très, très, très dangereuse. M. Maliki a effectivement détruit l'État irakien, tel qu'elle soit cet État, mais il l'a polarisé. Le peu d'avancement de bien qui était arrivé les dernières années de Bush avec le Sahwa et ce genre de choses ont été complètement détruits. Et aujourd'hui, si l'État islamique est aussi puissant, c'est à cause de M. Maliki.
Henri Barquet, est-ce que les États-Unis ont un problème avec leur renseignement ?
Non, justement, ça c'est une très 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 bonne question. Écoutez, je connais, habitant en Washington, je connais beaucoup de gens, mais je crois que les renseignements ne sont pas mal. C'est la question conceptuelle de la Maison Blanche. Cette Maison Blanche, c'est drôle, cette Maison Blanche est terriblement, elle n'est pas forte, c'est-à-dire de ce point de vue-là.
Elle n'est pas forte ?
Oui.
Elle n'est pas douée.
C'est-à-dire que c'est pas le président américain qui va se réveiller à 3 heures du matin et va dire « Oh mon Dieu, la frontière entre l'Irak et la Syrie a disparu, qu'est-ce que je veux faire ?» Au fond, c'est à ses conseillers autour de lui dire « Écoutez, ce problème est en train de se développer, il faut que nous agissons. » Alors, c'est une question à la Maison-Blanche de faire. Tout le renseignement est là. Nous dépensons des milliards et des milliards de dollars quand il s'agit de ces questions-là.
Alors, Henri Barquet, je vais plus loin. Est-ce que finalement la presse française, la presse européenne a raison lorsqu'elle se pose la question de savoir si les États-Unis ont pris la mesure de ce qui se passe au Proche-Orient, qui est aujourd'hui sans dessus-dessous ?
Oui et non. En général, je crois que, écoutez, la presse européenne, surtout la presse française, a un certain mépris pour la façon dont les Américains font le boulot. Et même quand les Américains le font bien, ils trouvent à redire, à critiquer. Alors, je prends ceci avec un peu de... C'est un peu exagéré, d'après moi. Non, le problème est en Amérique même. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans la Maison Blanche. Il y a un problème parce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là qui ne savent pas ou ne comprennent pas, n'ont pas l'expérience, si vous voulez. Et le président n'a pas su, je crois, cultiver, si vous voulez, un team très fort. Écoutez, vous n'allez qu'à voir les deux premiers, National Security Advisor, les conseils tous les deux étaient excessivement faibles. C'était des gens qui n'avaient jamais Oui, ils étaient des gens qui avaient, l'un était un général, l'autre était un avocat, ils connaissaient en général la politique étrangère. Mais c'était pas des professionnels, vous savez, c'est pas des gens qui avaient passé leur vie à penser sur des questions et politique étrangère. Susan Rice, c'est différent. Mais les deux premiers, nous avons perdu beaucoup de temps avec eux.
Alors, je continue avec vous, Henri Barquet, et ça permettra d'introduire le sujet dont Sophie Pommier est la spécialiste, c'est l'Égypte. Qu'est-ce que l'on peut dire de la façon dont les Américains voient ce qui se passe et les évolutions en Égypte aujourd'hui?
Écoutez, l'Égypte est trop compliquée, c'est-à-dire de ce point de vue-là. C'est un choix, au fond, assez terrible pour les Américains. Avoir les frères musulmans ou avoir un régime militaire. Au fond, aucun des deux est ce que les Américains veulent. Mais l'Égypte est trop grande, trop importante, et c'est pas, ils ont essayé de travailler avec les frères musulmans. Ils n'ont pas voulu ce coup d'État que Sisi a fait. Mais une fois qu'il est arrivé, ils sont obligés de travailler. Écoutez, en général, l'Amérique n'a pas le luxe de dire à un pays comme l'Égypte ou à un pays comme la Turquie, je n'aime pas votre politique, je n'aime pas vos leaders, alors on ne va pas vous parler, on va pas. Il y a trop de relations entre ces pays-là et les deux bureaucraties, disons la bureaucratie américaine, la bureaucratie turque, la bureaucratie américaine, la bureaucratie égyptienne, travaillent continuellement entre les deux. Même si vous avez Sisi ou Morsi comme président, ça fonctionne. Alors, il y a, si vous voulez, un momentum qui vient avec être la grande puissance dans le monde. C'est pas le même cas avec la Syrie, par exemple, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de relations avec la Syrie. Mais avec un pays comme l'Égypte, un pays comme la Turquie, au fond, nous avons vraiment des grands différends avec la Turquie. On travaille ensemble, ça doit continuer. Et je suppose qu'avec l'Égypte, c'est la même chose.
Sophie Pommier.
Oui, enfin, on ressent une impression de flottement dans la manière dont les États-Unis ont géré la question égyptienne depuis ces dernières années. Et effectivement, peut-être une déficience d'analyse, comme vous l'aviez souligné sur l'Irak, avec la capacité à percevoir les effets pervers de la gestion de Nouri el-Maliki. De la même manière, les Américains qui n'étaient pas au mieux avec les frères musulmans, contrairement à ce que le régime de Sisi a pu faire croire après, puisqu'il y avait eu cette fameuse formule de Barack Obama à propos de l'Égypte pendant la période Morsi, où il avait dit que l'Égypte n'était ni un allié ni un ennemi, donc vraiment prenant quand même une certaine distance, mais en tout cas sans doute une incapacité à prendre la mesure du blocage politique auquel était arrivé le pays, et qui pour partie, et pour une grande partie, a débouché sur le coup d'État. Enfin, sur la mobilisation du 30 juin et la destitution de Mohamed Morsi. À partir de là, on a eu effectivement l'impression qu'il y avait toujours un peu un temps de retard. Les Américains ont rejeté le coup d'État. Ensuite, il y a eu une phase avec des mesures de rétorsion à cause des excès de la répression. L'aide américaine a été gelée pendant quelques temps. Et puis finalement, on l'a fait repartir alors que sur le terrain des droits de l'homme, la situation s'est strictement pas améliorée, voire même s'est encore dégradée. Donc il n'y a pas de cohérence politique. Et effectivement, on voit bien que ce qui prime, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que pour Washington aujourd'hui, il est impensable qu'un pays de la stature de l'Égypte, 90 millions d'habitants, une position régionale incontournable, bascule à son tour dans le chaos. Donc là, il faut effectivement composer. Et du coup, on restreint quand même en partie la relation aux questions essentiellement de coopération sécuritaire et stratégique. C'est pas les grandes amours, mais on ne peut pas rompre. Alors après, se greffe là-dessus le jeu de coquette de l'Égypte qui fait mine de se rapprocher et qui se rapproche effectivement pour partie de la Russie, qui laisse penser qu'elle va passer des contrats d'armement. Bon, ça sera sans doute essentiellement des liens de nature économique et commerciale à l'arrivée, mais bon, il y a tout un jeu de pression mutuelle. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on voit bien que les Américains ne peuvent pas s'offrir le luxe de rompre avec un pays comme l'Égypte.
Ce que vous avez dit est très juste. C'est une politique du pragmatisme. Ça a toujours été très souvent le pragmatisme, sauf pendant les années Bush-fils, où ils avaient des grandes conceptions de l'importance de l'Amérique. Mais le problème avec le pragmatisme, c'est que vous décidez à la dernière minute. Vous ne prenez pas vos précautions en avance. Et ça, c'est le grand défaut de la politique américaine, le pragmatisme. Au fond, les Américains sont très pragmatiques, c'est vrai, mais quand il s'agit de faire une politique étrangère qui est complètement basée sur le pragmatisme, alors tous les renseignements que vous recevez de vos diverses agences ne servent à rien, parce que ceci, ce sont des informations que vous recevez en général, c'est pour vous préparer à penser, à prendre des mesures en avance. À la dernière minute, ça ne sert à rien.
Peut-être aussi, Sophie Pommier, que les Américains ont pris la mesure des limites des positions doctrinales après l'échec de la stratégie de Bush qui, après le 11 septembre, enfin, et toute l'influence des néoconservateurs, pensait qu'un des terreaux qui avait nourri le djihadisme, c'était le manque de démocratie dans les pays arabes, et donc qui avait très fortement exercé des pressions sur des régimes, notamment comme l'Égypte, pour que ces régimes se libéralisent. Ce qui avait été fait en partie, c'est à ce moment-là que l'Égypte s'est dotée d'une presse d'opposition, qui a eu un multipartisme, des élections dans lesquelles les frères musulmans d'ailleurs avaient opéré une percée significative en 2005. Et puis finalement, on débouche sur les printemps arabes, sur un bouleversement général. Donc il y a un petit peu sans doute aussi une interrogation de fond sur la pertinence de cette logique des droits de l'homme et des effets négatif qu'elle peut apporter, d'où un vide finalement et un recours à un pragmatisme avec toutes les limites que celui-ci peut avoir.
Barmigaï.
Oui, non, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, moi je crois qu'effectivement on a peut-être encore une forme de, j'ose pas dire incompréhension par rapport à la politique américaine, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, mais en tout cas on a quand même trop tendance à s'interroger ou trop tendance à mettre en avant le fait que finalement l'idéologie pourrait être ce qui tiendrait les États-Unis depuis notamment la Manifeste Destiny en 1847 et le fait que les États-Unis voudraient effectivement exporter, disons, un modèle qu'ils ont eux-mêmes. Moi, si je regarde les différents exemples, les différentes phases des administrations américaines à travers leur histoire, moi je crois que finalement, dans l'aboutissement, on reste dans la réelle politique, on reste dans le pragmatisme. Et même à l'époque de l'administration Bush, certes, l'idéologie paraissait avoir un relent très très fort, mais dans le même temps, ce n'est pas pour autant que l'idéologie a bouleversé le pragmatisme. Donc je crois que c'est là qu'effectivement la question peut-être pour laquelle on n'a pas entièrement tous les éléments, mais à un moment où on parle de plus en plus de la possibilité pour les États-Unis de revenir eux-mêmes, de compter sur eux-mêmes pour ce qui concerne leurs besoins pétroliers, énergétiques en l'occurrence, la manière par laquelle cela pourrait bouleverser ou à tout le moins changer la nature de leur relation avec essentiellement les pays du Golfe. L'impact de cela sur l'investissement des États-Unis dans la région Moyen-Orient, je crois qu'effectivement, là, il y a un questionnement de fond, mais au départ duquel, je crois qu'on ne peut pas non plus dire que les États-Unis, à partir du moment où ils n'auraient plus besoin du pétrole du Moyen-Orient, perdraient de vue le Moyen-Orient. Je crois que ce serait excessif de le penser. Non, je crois que les États-Unis, effectivement, garderont en tête que le fait que le Moyen-Orient reste, tout comme il a été durant la guerre froide, reste un pôle de positionnement, notamment par rapport à d'autres acteurs. Et moi, je demeure convaincu que aussi bien dans le cas du Moyen-Orient que dans le cas de l'Irak ou de la Syrie, jusqu'à peu, effectivement, si les États-Unis perdent par rapport au régime syrien, ce seraient les Russes qui gagneraient en retour, et vice-versa. Donc tout cela pour dire que incontestablement, on a des recompositions américaines, et ça c'est normal. Je crois qu'effectivement, les évolutions internationales font aussi que les États-Unis peuvent avoir d'autres priorités ou d'autres menaces vis-à-vis de leurs intérêts, mais le Moyen-Orient garde sa pertinence dans tout cela. Maintenant, est-ce que cette pertinence fait que les États-Unis vont continuer à investir autant qu'ils l'ont fait jusqu'à présent? C'est sûr que là, la donne demeure beaucoup plus nuancée. Mais les théories, et j'en terminerai avec cela, mais les théories qui notamment exposent le fait que les États-Unis pourraient être tentés de se replier sur eux-mêmes parce qu'ils ont des besoins et des priorités économiques, je crois qu'elles ont une pertinence jusqu'à un certain point, mais en contrepartie, je crois que les États-Unis garderont leur empreinte et garderont des marques dans la région, ne serait-ce que parce que, au final, que ce soit côté gouvernemental ou côté opinion publique, quand on fait un calcul entre les États-Unis et leurs concurrents tels que les Russes et les Chinois, moi je crois que le cœur des Arabes, de manière générale, continue à osciller vers les Américains, quels que soient les différends ou quelles que soient les divergences qu'il y a avec les Américains en même temps.
Alors pour poursuivre avec l'avenir, Henri Barquet, passé ces élections de demi-mandat aux États-Unis, il reste 2 ans à Barack Obama pour continuer de gouverner le pays et d'être à la Maison-Blanche. On l'a beaucoup dit. Durant cette campagne, le président américain assez désabusé finalement, il a été la proie d'attaques multiples de la part, voire d'obstruction hein, de la part des républicains. Une présidence somme toute difficile à gérer. Est-ce que, alors, comment va-t-il gouverner pendant les 2 années qui vont venir? Est-ce qu'on peut imaginer le président Obama être le président du rapprochement avec l'Iran?
Justement, j'allais vous dire que le grand dossier qu'on n'avons pas parlé, c'est l'Iran. Mmh. Et si l'Amérique, aussi Obama, je dois dire, avait une stratégie, c'était de changer la politique vers l'Iran. Et au fond, il a géré ce dossier-là très bien. Peut-être parce que il a aussi choisi des gens vraiment très compétents sur ce sujet-là. Le numéro 2 du département d'État, Bill Burns, qui vient de prendre sa retraite, etc. Et alors, quelle était la politique? C'était une politique de longue durée, une politique patiente, une politique qui avait des objectifs très réels. Alors, c'était de mettre autant de pression que possible sur l'Iran, au fond de faire, pas la guerre économique, mais créer des grands problèmes économiques pour l'Iran, pour que l'Iran change, pas seulement structurellement, c'est pas que M. Obama a décidé de voter pour M. Rouhani, on ne savait pas qui aurait gagné ou qui aurait été permis de participer aux élections iraniennes. Mais le fait est que si aujourd'hui Rouhani est le président, c'est pas parce que Ayatollah Khamenei le voulait, mais c'est parce que la cause de la pression américaine qui a forcé Khamenei à ouvrir un peu l'espace politique parce qu'il était en mauvais droit. Bon, maintenant c'est le moment critique. C'est-à-dire que la première partie, si vous voulez, de la politique d'Obama a réussi. Les sanctions ont marché, ils ont très bien marché. Maintenant, dans les deux prochaines années, il doit finir ce dossier parce que ça, je ne sais pas qui va gagner les élections, les prochaines élections présidentielles, mais si ce sont les républicains, alors ça sera très difficile de continuer la perspective sur l'Iran. Alors, il voudrait finir ça. Et au fond, c'est le seul grand succès, si vous voulez, de la politique étrangère d'Obama.
Mais les républicains majoritaires au Congrès ne vont pas faire la part belle à Obama sur cette question-là, Henri Barquet.
Oui, mais écoutez, s'il y a vraiment un accord qui est objectivement un bon accord, ça sera très difficile pour les républicains de faire la guerre à Obama à ce point-là. Au fond, parfois ça aide, je crois, Obama si les républicains s'avèrent très difficiles parce qu'ils peuvent se retourner aux Iraniens et dire, voilà, écoutez, si vous voulez vraiment un accord avec nous, il faudrait que ceci se fasse maintenant, vite. Le problème ici, c'est Khamenei, parce que d'après moi, je ne crois pas que M. Khamenei a décidé encore s'il veut un accord avec l'Amérique ou non. Il essaye, lui aussi, il a ses calculs à lui-même. Au fond, c'est un leader qui sera là, il pense être encore, je ne sais pas combien d'années comme leader.
C'est lui,
c'est lui qui a tout le pouvoir aujourd'hui en Iran, ce n'est pas M. Rouhani. Et alors, c'est vraiment une personne qui décidera tout ça en Iran. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. Vous ne savez jamais comment et quelle décision il prendra. Mais s'il y a un accord avec l'Iran, ça sera un grand succès pour Obama. Et jusqu'à maintenant, il faut dire, malgré que je critique beaucoup sa politique au Moyen-Orient en général, de ce point de vue-là, il l'a très bien mené. Même qu'il y avait beaucoup, beaucoup de critiques, surtout la gauche américaine qui disait, vous augmentez les sanctions, le pauvre peuple iranien est en train de souffrir, etc., etc. Mais alors, il y avait une bonne stratégie derrière ça, et très, très efficace.
Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci Henri Barquet. C'est la fin de Géopolitique depuis l'Université Lyon 2 qui accueillait il y a quelques jours un colloque sur le thème Le Moyen-Orient à l'heure du Golfe. Merci à nos invités. Henri Barquet, professeur à l'Université Lehigh de Bethléem en Pennsylvanie aux États-Unis. Sophie Pommier, directrice du cabinet Merouet à Paris. Et Bara Mikhaïl, chercheur à la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin et Médard Chableux à Lyon, Nathalie Laporte et Véronique Durand à Paris. Demain, Géopolitique sera consacrée aux grands ports mondiaux. À demain.
RTL Transmusic Star à